points d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire. Quel âge as-tu ?
16 ans.
De quel pays es-tu ?
D'Aubin.
N'est-ce pas là, dis-moi, qu'on s'est battu ?
On ne s'est pas battu, l'on a tué.
La mine prospérait. Quel était son produit ?
La famine.
Oui, je sais, le mineur vit sous terre et n'a rien. Avec la nuit, de plus, il est galérien. Mais toi, faisais-tu donc ce travail, jeune fille ?
Avec tout mon village et toute ma famille, oui.
Pour chaque ôtée, on me donnait un sou. Mon grand-père était mort, tué du feu du grisou. Mon petit frère était boiteux d'un coup de pierre. Nous étions tous mineurs, lui, mon père, ma mère, moi. L'ouvrage était dur, le chef n'était pas bon. Comme on manquait de pain, on mâchait du charbon. Aussi, vous le voyez, monsieur, je suis très maigre, ce qui me fait du tort. Le mineur, c'est le nègre. Hélas, oui. Dans la mine, on descend. On travaille à genoux, dans le puits. C'est glissant. Extrait du poème de Victor Hugo, Aubin. Un poème pour introduire notre thème, Henri Moisé, Germinal en Aveyron, 1886, grève de Decazeville. Bonjour d'abord.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous inspire ce poème ?
Eh bien, pour moi, il résume parfaitement ce qu'a été, même en Aveyron, ce pays noir lié au charbon et à la métallurgie, où à côté de création de richesses de même mise du grand capital, s'était constitué un prolétariat qui travaille dur pour exploiter ce charbon et produire cet acier. Et ce 19e siècle dit révolution industrielle, eh bien il existe aussi en Aveyron. Alors que l'on a une image souvent de l'Aveyron rural, agricole, on oublie la présence de la grande industrie, celle qui faisait de notre département un des 5 ou 6 départements les plus industrieux de France. Alors ça peut surprendre, on imagine toujours le Nord, le Pas-de-Calais, la Lorraine. Eh bien oui, en Aveyron, il y avait de la houille, il y avait de la métallurgie, il y avait des minerais. Et ces minerais, cette métallurgie, ce charbon, avaient créé un pays noir qui, évidemment, se concentre dans le bassin houillé de Decazeville, ville fondée à partir de 1834. Mais ça ne se résume pas au bassin houillé. C'est aussi l'industrie de la vallée du Lot, en Aveyron. C'est aussi la vallée de la Dourbie, que l'on oublie parfois, où il y a du lignite. C'est aussi le minerai de fer de Mont-d'Alazac, où c'est encore des industries métallurgiques du zinc et du cuivre à Viviers. Ainsi donc, un bassin noir, un bassin minier, un bassin industriel, d'industrie lourde, pardon, qui font de ce département, l'Aveyron, un pays ouvrier, où le prolétariat, au sens du 19e siècle, est nombreux. Et voilà une autre particularité pour introduire ces conflits sociaux qui vont parfois ensanglanter notre région. Près de 5000 personnes travaillent pour extraire le charbon. Des milliers travaillent dans la métallurgie. Et c'est dans ce contexte-là que se construit ce prolétariat qui est encore d'origine rurale, souvent qui garde des attaches avec la campagne. Le déracinement n'est pas encore complet. À 80%, ces mineurs, ces ouvriers d'usine sont des ruraux. Donc ils gardent encore une attache rurale, un jardin, une vigne, un champ, ce qui leur permet souvent, en cas de chômage, d'avoir un tout petit revenu, mais qui en même temps a le désavantage de créer un absentéisme dans la mine, dans l'usine. car au moment des travaux agricoles, souvent l'ouvrier préfère rester chez lui plutôt que de rejoindre son poste de travail. Et d'où d'autres conflits qui peuvent surgir de l'incompréhension entre ces Aveyronnais, mi-ouvriers, mi-ruraux, et ces grands capitaines d'industrie, représentants du grand capital, qui vont imposer à la fois des conditions de travail très dures, des conditions de vie particulièrement difficiles, et donc, parfois, la lutte des classes.
Vous parlez donc pourtant de misère, de déshumanisation, alors qu'à l'époque, on parle, c'est la révolution industrielle, on parle de progrès.
Et voilà peut-être, oui, le paradoxe de notre propos. Oui, progrès en effet, incontestable. En Aveyron, comme dans d'autres régions industrielles, s'implantent les grandes compagnies. Et quand on parle de la compagnie, c'est un mot générique qui peut recouvrir bien des réalités. Par exemple, la compagnie des chemins de fer du Grand Central, ou encore celle dite d'Orléans, en fait, qui était la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. C'est aussi la société des houillères et fonderies de l'Aveyron, qui depuis les années 1830 va se développer, prendre de l'ampleur jusqu'en 1860 et va même se fondre dans la future compagnie de Commentry-Forchambault de Cazeville. C'est encore la société des mines de Campagnac ou encore la société des aciéries de France en 1881 ou encore Vieille Montagne. C'est dire que ce progrès, effectivement, voit se développer une stratégie capitalistique tout à fait classique en ce 19e siècle et que l'on retrouve dans la plupart des pays européens dits industriels. Il s'agit de capitaux qui ont des stratégies de concentration horizontale, on absorbe des concurrents, ou des stratégies d'intégration verticale. Pourquoi les compagnies ferroviaires viennent-elles investir à Aubin, Cransac, Decazeville ou sur le bassin? Tout simplement parce qu'il y a des laminoirs et qu'avec les laminoirs, on fabrique du rail. Le rail intéresse évidemment la construction ferroviaire. C'est vrai aussi que ces grandes compagnies investissent. Elles réalisent même un nouveau pays. On ne crée pas que de grands centres de production. On n'est plus dans l'atelier ou dans la manufacture. On est déjà dans l'usine. On crée du chemin de fer. C'est à partir des années 1830-1860 que dans ce pays minier aveyronnais, le chemin de fer apparaît vers Cap-de-Nac, Decazeville, Marcillac, puis vers Odèse. C'est aussi la formidable avancée technologique pour l'époque. On voit que dans notre pays, on introduit les grandes technologies européennes. On ne se contente pas d'extraire le charbon à la pioche ou à la pelle. On voit immédiatement apparaître aussi les laminoirs, les techniques Besmer, les fours Martin, le pudelage. Toute technique qui, introduite à partir des expériences anglaises, vont révolutionner véritablement notre industrie lourde. Et puis il y a enfin, autre progrès, l'urbanisation. Car ces ruraux, s'ils gardent quelque temps une attache avec leur village d'origine, voisin de la mine ou de l'usine, vont progressivement augmenter la population rurale. Et on voit donc en Aveyron, et notamment dans le bassin houillé, se développer des villes, comme Decazeville, Le Gat, par exemple, ou encore Combes. Ce qui veut dire qu'aussi, on voit se développer un nouvel habitat. Quand on parle de baraque, c'est un habitat ouvrier, les mauvais corons de nos régions. On parle de caserne, c'est-à-dire un habitat bon marché, réservé aux ouvriers. Ça veut dire aussi que déjà ce progrès industriel s'accompagne de dégradations. Des villages ont été rasés, ont disparu parce qu'il fallait produire la houille. On a entraîné une pollution par les effluents industriels. Il y a eu, évidemment, création d'un monde nouveau que Jules Guesde appelait l'enfer minier, dont progrès certes, mais en même temps le revers du progrès, qui s'accompagne enfin par le déracinement, par la paupérisation, car n'oublions pas toujours que derrière le progrès technique, il y avait les hommes, et qu'eux souffrent, ils souffrent des coups de grisou, 1888, près de 50 morts à Campagnac, lors d'une explosion. Il y a la paupérisation dans, et le manque d'hygiène dans les logements, ce qu'évoque Victor Hugo dans son poème sur Aubin. Il y a aussi le mauvais état physiologique. Quand on travaille de 10 à 12 heures dans des conditions détestables, quand on est obligé de travailler jusqu'à un âge avancé, il y avait des gens qui travaillaient sur le carreau de la mine jusqu'à 70 ans, parfois même plus, pour trier le charbon. Quand on utilise des femmes ou même des enfants dans ces pires conditions, il faut relativiser la notion de progrès.
Voyez donc cet aristocrate, pâle comme eux, qui fait des épates. Il passe sa vie à nocer, à 20 ans c'est déjà cassé. Comme une femme, ça a des faiblesses, ça veut jouer à l'ancienne noblesse, incapable de gagner son pain. Voilà le type du vrai gandin. Il a les mains blanches, les mains maquillées. Il a les mains blanches, par la honte souillée. Ça sent la paresse, c'est mou, c'est gnangnan. Voilà ce qu'on appelle des mains de feignant. Voyez donc ces hommes en soutane, soi-disant sur eux le bon Dieu plane. Ils prônent Moïse et Jésus-Christ, mais font le contraire de leurs écrits. Oui, Moïse était un apôtre, Jésus-Christ mourut pour les autres. Tandis que vous, prêtres, pasteurs, rabbins, votre but, c'est l'or, le butin. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par l'or, elles sont souillées. Ça sent le tartuffe, l'avare, le gripsou. Voilà ce qu'on appelle des mains de filou. Voyez donc ces hommes politiques, vrais paillasses à gueule tragique, qui pour aller au Parlement, au peuple font du boniment. Je vous promets les retraites ouvrières, je vous promets la fin de vos misères. Ils se votent d'abord et comment, pour eux-mêmes 41 francs. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par la fraude souillée. Ça sent le roublard, ça sent le malin. Voilà ce qu'on appelle un poil dans la main. Voyez donc cette foule tapageuse, quelquefois gaie, souvent malheureuse. Oui, ce sont les braves ouvriers, c'est la masse des sacrifiés. Ils reviennent du bagne de l'usine, ils sont pâles, ils ont mauvaise mine. Hommes et femmes, vrais gueumeurs de faim, qui engraissent un tas de coquins. Leurs mains ne sont pas blanches, ils ont travaillé. Leurs mains ne sont pas blanches, elles sont meurtries, broyées. Ça sent le courage, la force et l'honneur. Voilà ce qu'on appelle des mains de travailleurs.
Marc Augeret, Les mains blanches. C'est vous qui avez choisi cette chanson, Henri Moisé. Oui. Une chanson revendicative, révolutionnaire.
Oui, mais en même temps qui, c'est mon point de vue en tout cas, traduit la réalité. Une réalité qui est marquée par une prise de conscience. Certes, dans l'Aveyron, et notamment dans le, et particulièrement dans ce pays minier qui nous intéresse aujourd'hui, les progrès de l'idéologie révolutionnaire est lent. Il ne faut pas imaginer que les ouvriers, quand ils votent, votent à gauche, dirions-nous. Ils votent souvent encore aux conservateurs. Ils sont encore pour longtemps sous l'influence de l'Église. Mais il y a une prise de conscience que leur travail, qui ne leur permet pas de vivre décemment, qui leur impose des conditions de vie très dures, parfois mortelles en cas d'accident, est un travail qui mérite mieux. Et s'ils ne sont pas révolutionnaires, ils sont en revanche très sensibles à leur misère. Et ils en découvrent tout de suite les causes. Évidemment, quand ils entendent dire que c'est leur misérable salaire qui est la cause de la ruine de la compagnie, ou qui empêche évidemment les bénéfices, ils ont de quoi être insurgés. D'autant plus quand on leur dit que si on les paie peu, si on baisse même le salaire parfois, parce que les conditions sont mauvaises, le capitaliste, traduisait l'actionnaire, lui, prend le risque de tout perdre. Et donc il y a là une incompréhension qui ne se traduit pas encore par la lutte des classes au sens idéologique, mais qui se traduira parfois au moment de ces fortes pulsations, à des moments terribles de la société, de l'économie, par la grève, mais aussi par la révolte. Car pourquoi se révolte-t-on? Il n'y a pas que, je dirais, laisse la solidarité ou l'impulsion venue d'ailleurs, puisqu'on accuse toujours que la grève et la révolte, qui peut ensuite en être la conséquence, viennent d'éléments extérieurs, pas du tout. Ce sont toujours les locaux qui lancent le mouvement. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne un mot d'ordre. Ils sont suffisamment fiers et malheureux pour décider par eux-mêmes. Mais ce qui rend la période particulièrement difficile, c'est cette phase de crise qui commençait en 1873, va se prolonger jusqu'en 1895. Après une longue période de développement, l'économie française, et l'Aveyron n'y échappe pas, est soumise à des dérèglements. Concurrence étrangère, perte de compétitivité, dirions-nous en termes contemporains, s'y ajoutent aussi des débouchés qui se ferment. Ajoutons-y aussi, et c'est important, la crise agricole. On oublie qu'en 1884, l'agriculture va mal, le phylloxéra n'étant qu'un des aspects bien connus, et dans nos régions, ça a compté puisque ça a ruiné le vignoble de la vallée du Lot. Et donc, ce prolétariat qui est, à chaque revendication malmenée, qui est l'objet d'une répression constante quand il manifeste, qui est soumis à une surveillance tout aussi permanente, va, quand on lui impose de nouveaux sacrifices, va se mettre en grève ou se révolter. Alors c'est vrai que cette misère, cette colère dont nous évoquons l'importance et parfois les moments particulièrement forts, ont pu amener parfois une prise en compte par le patronat, par la compagnie, par les actionnaires. Mais c'est dans une attitude plus paternaliste que franchement attentive aux droits ou à la justice sociale. Alors, dans le bassin, par exemple, dès les années 1830-1860, existe une caisse dite de secours. Mais le secours est non pas symbolique, mais tellement faible qu'en cas d'accident ou de mort, ça ne permet pas à l'ouvrier mutilé ou à la famille orpheline de survivre décemment. Il y a bien une caisse de retraite, fait innovant, dans les années 1860, un petit peu plus tard, 1865, mais c'est une caisse de retraite, certes avec des cotisations patronales et ouvrière, mais qui ne débouche que sur des pensions minimes. Et donc, même si on crée un hôpital à De Cazeville en 1875, même si on améliore les adductions d'eau et l'éclairage au gaz, ça ne répond pas à toutes les demandes, à toutes les revendications. Et donc, le prolétariat, le monde ouvrier, particulièrement déçu, est capable de rejeter, évidemment, les demandes inacceptables à ses yeux qui arrivent fréquemment de baisse des salaires.
Quelles sont les revendications des ouvriers ?
Alors, il y a des constantes. Elles sont souvent structurelles. On demande une augmentation de salaire. Car du fait de la crise, si le salaire n'augmente pas, les prix, eux, ont justement tendance à augmenter. Il y a des causes conjoncturelles. Du fait de la crise, par exemple, le patronat exige ou impose ou veut imposer une baisse des salaires. Alors ça peut paraître surprenant et c'est pourtant ainsi. Parmi les causes conjoncturelles, il peut y avoir un accident. Et là, la solidarité joue. Après un coup de grisou, les conditions de vie sont jugées inacceptables, les conditions de travail sont rejetées, on veut des améliorations, et donc on se met en grève. Et ça peut dégénérer. Il y a très rarement des considérations idéologiques. Je reprends les propos d'il y a un instant. L'influence socialiste, on ne peut pas l'exclure, mais elle est mineure. Je veux dire, c'est d'abord la réaction et la découverte de la misère qui est essentielle. Eh bien, il y a aussi une cause extérieure qui peut arriver, mais elle n'est pas idéologique, justement. C'est lorsque dans un bassin ou un lieu industriel voisin, comme Carmaux, par exemple, où une grève a été suivie de succès, où des augmentations de salaire sont intervenues, et bien à ce moment-là, par contagion, puisque les uns ont réussi, pourquoi pas nous, dit-on, et bien on va se mettre en grève et essayer d'obtenir des avantages identiques, ou du moins qui s'y rapprochent. Ces motifs, ces revendications, elles vont jouer sur, je dirais, dans un climat de rancœur. Car une grève perdue, une grève qui n'a pas abouti, est une grève qui laisse des traces. D'abord, de méfiance vis-à-vis d'une nouvelle grève. Et donc, la grève suivante ne repartira que s'il y a une cause encore plus grave de désespoir. Il y a surtout cette idée qu'il ne faut pas céder, quoi qu'il arrive. Alors, deux exemples. Une grève qui s'achève sans succès oblige les ouvriers à reprendre le travail avec un salaire de misère, baissé souvent, et on a perdu de l'argent. Comme l'ouvrier a été mauvais dans son état d'esprit, le patronat a toujours tendance à sanctionner. On impose des cadences plus fortes, ou même on augmente, et je peux choquer certains, les amendes. Car outre un salaire souvent très faible, il y a une pratique de pénalisation financière. Un ouvrier qui est en retard, on lui retient un peu le salaire. Un ouvrier qui est absent se trouve pénalisé par une amende. Un ouvrier qui ne répond pas aux normes techniques de qualité ou de quantité se trouve pénalisé. Le salaire est bas et par des artifices, on arrive à le baisser encore. Et souvent, même une grève qui a été victorieuse, qui a été suivie d'un léger progrès salarial, et sans lendemain, parce que très vite, ce que le patronat a donné d'une main, il le reprend de l'autre, et il s'ingénie à créer de nouvelles normes qui vont de fait rogner le peu qui a été acquis. Et ceci nous peut expliquer, me semble-t-il, le nombre de grèves qui en Aveyron se déroulent, ou sont, et le nombre repérable entre 1857 et 1914. Il y a là entre 1857 et 1890, un nombre de grèves croissant. Alors on peut dire que c'est le fait de la crise. C'est vrai dans le bassin de Decazeville, c'est vrai dans la région du Millau, mais c'est vrai aussi dans les petites usines rurales, comme Verzon-la-Peyre, où en 1895, il y a une grève. C'est vrai pour Roquefort, où les grèves sont plus fréquentes qu'on ne le croit. Et lorsqu'après, en 1895, c'est, dit-on, la belle époque, les grèves continuent. Au contraire, parce que c'est la belle époque, parce qu'il y a une relative prospérité, eh bien les demandes se multiplient et les exigences de partage du gâteau, évidemment, sont amplifiées.
Alors vous avez deux exemples à nous donner pour ces grèves. La première, donc 1869, à Aubin.
Oui. Je vous propose ces deux grèves, une à Aubin d'abord, 1869, c'est la fin du Second Empire, Napoléon III. C'est celle qui a servi de point de départ à cette émission. Qu'est-ce qui se passe de si probant ? Victor Hugo a célébré cette grève, du moins en montrant la violence. Et je crois que c'est cela qu'il faut d'abord, sur quoi il faut insister. En 1869, quelques progrès ont été obtenus pourtant, notamment un relatif droit syndical. La législation évolue, certes très lentement, mais la misère, elle, le poids du patronat, la législation interne, le règlement, interne aux entreprises est toujours là. Et il suffit d'une mesure mal comprise, il suffit d'une augmentation des amendes, comme c'est le cas, il suffit évidemment d'une remise en cause de quelques avantages pour que la grève brutalement éclate. Et en 1869, comme toute grève, il y a une répression immédiate. Elle n'est pas que policière, on envoie la gendarmerie certes, mais on envoie aussi l'armée. Et l'arrivée des bataillons, en 1869, c'est ceux de Rodez, crée une tension telle que l'affrontement est toujours possible. Et ce qui fait la particularité de 1869 à Aubin, c'est que non seulement les ouvriers se mettent en grève, les mineurs d'abord et les métallurgistes ensuite, mais ce sont aussi les femmes. Et parmi les 14 morts, il y a une femme et un enfant. La deuxième grève est celle de 1878. La crise économique, la dépression, se fait de plus en plus forte déjà, même si elle est récente. Et la compagnie, comme disent les ouvriers, veut baisser les salaires. Et c'est une situation, insoluble. Les uns veulent baisser les salaires, les autres ne peuvent pas l'accepter. Et donc, rapidement, l'état d'esprit est effervescent. Et quelques meneurs particulièrement forts vont réussir à galvaniser les mineurs d'abord, puis la métallurgie. Et cette fois, c'est Decazeville qui va se trouver pendant quelques jours parfaitement agités, nouvelle répression, bien sûr, comme toujours, par les tribunaux, nouvel envoi de troupes, mais cette fois, la grève échoue. Alors, c'est grave parce qu'il y a à la fois l'échec financier, la grève a coûté cher aux salariés, aux ouvriers, il y a ceux qui sont renvoyés, les meneurs, il y a l'obligation pour ceux qui sont repris de se réinscrire et donc d'accepter des conditions de travail pas toujours satisfaisantes, voire inférieures aux précédentes, et dont la rancœur, désormais, en 1878, va s'ajouter à toutes les revendications anciennes non satisfaites. Et pendant quelques années, c'est le calme, mais un calme relatif, et il suffit de l'incident lié à un sous-directeur, Vatrin, pour que cette fois le bassin s'enflamme à nouveau et soit ensanglanté, mais on est en 1886.
Alors là, je vais lire un texte avant qu'on en arrive À l'année 1886, année terrible, la chanson « La Carmagnole des mineurs » ou « La bataille » écrite en 1885. « Allons, enfants des fusillés, mettez dans vos fusils rouillés de la mitraille, guerre aux exploiteurs, nos tyrans. Allons, debout, serrons les rangs pour la bataille. » Comme nos aînés de 15 ans qui se battirent en géant contre Versailles, ralliés au rouge drapeau, risquons hardiment notre peau dans la bataille. Nous avons vu vos trois couleurs, balayées chez les empereurs de la ripaille, la nôtre n'a jamais flotté qu'au souffle de l'égalité dans la bataille. Texte écrit donc en 1885.
85, donc la veille de l'année terrible pour le bassin. Alors cette chanson, La Carmagnole des mineurs, ou La Bataille, résume bien l'état d'esprit qui s'impose. Dans ce bassin, en effet, les rancœurs sont tenaces depuis plusieurs années. La reprise en main, et voilà pourquoi je tenais à rappeler la grève de 1878, la reprise en main a été le fait d'un sous-directeur, Vatrin, venu d'Alsace, l'Alsace ayant été perdue, je le rappelle, en 1871. Ceci peut expliquer cela. Vatrin est un homme d'action, c'est un très bon sous-directeur, choisi pour ses compétences de gestionnaire, d'organisateur du travail, mais il est peu aimé, c'est un homme du Nord. Le surnom de Prussien lui est rapidement donné. Il comprend mal ces ouvriers rouergaques, patoisants, qui ne comprennent pas toujours le français, mais qui savent évidemment que les cadences sont dures, que les conditions de vie restent extrêmement pénibles, et qui, évidemment, n'acceptent pas toujours les mesures organisationnelles d'un travail que Vatrin veut productif et rentable, au détriment, bien sûr, des conditions humaines. Et Vatrin va très vite, entre 1880, où il prend sa fonction, et 1886, devenir impopulaire. Les raisons, je viens de les expliquer, va s'y ajouter une raison assez accidentelle, qui n'a rien à voir avec le personnage lui-même, c'est l'existence d'une coopérative héritière d'une organisation qu'on appelait les fourneaux populaires, une aide, un secours. Cette coopérative prétendait commercialiser au bénéfice des adhérents ouvriers du pain et de la viande. Or, il est vrai que c'est ambigu. Certes, ça peut être conçu, et dans l'esprit de certains, ça l'était peut-être, comme une aide, comme une amélioration des conditions de consommation des salariés, mais en même temps, ça crée une dépendance vis-à-vis de la coopérative qui était gérée par la compagnie. Ça crée un crédit. Autrement dit, les ouvriers qui achetaient à crédit parce qu'ils n'avaient pas assez de leur salaire devenaient pieds et poings liés au bon vouloir de la compagnie, ce qui en faisait évidemment des gens sans doute plus dociles, ou du moins moins revendicateurs. Et cette coopérative est mal perçue aussi par les commerçants locaux qui craignent une concurrence pour leur propre commerce. Et c'est cette conjonction d'un personnage autoritaire, incontestablement mais impopulaire, un mécontentement ouvrier ancien qui se cristallise à nouveau, et de cette ambiance d'opposition de la part du commerce local qui en 1886 va dégénérer, alors que le climat, c'est vrai, s'y portait depuis de longs mois, et se traduire en janvier 1886 par un appel à la grève. Il a suffi d'incidents, on envisage une baisse de salaire à nouveau, pour que ces éléments-là se coagulent. Et l'appel à la grève, lancé par une toute minorité, est immédiatement suivi de succès. Reste que l'ennemi pour ces grévistes de janvier 86, c'est un homme, c'est Vatrin. Et le premier jour de grève se passe très mal. Les femmes, notamment, joue un rôle non négligeable dans la violence du discours. On ne se contente pas d'insulter Vatrin, on ne se contente pas de manifester contre Vatrin, on réussit à s'emparer de Vatrin, et après quelques heures de bousculade, de coups, de blessures, Vatrin coincé dans un bâtiment et défenestré, et on l'achève, on l'assassine, car il faut bien parler d'assassine. À ce moment-là, le pire est accompli et on entre dans une longue période à la fois de grève, de répression, de conflits divers. Mais voilà, ça n'est plus une affaire simplement locale. La mort de Vatrin et les dérives qui en découlent ont une répercussion nationale. Certains députés dits ouvriers, comme Bazli, entendent au Parlement porter l'affaire devant les élus nationaux. Du débat national pris en compte par ces députés ouvriers, qui n'ont peut-être pas l'habitude du discours oratoire comme les grands bourgeois qui dominaient l'Assemblée, mais est un discours qui est courageux, qui met à mal le gouvernement, d'autant que à ce courage des députés ouvriers, très peu nombreux, vont s'ajouter les marques, elles, de plus en plus nombreuses, par contre, des solidarités. Bazili et quelques autres députés parisiens viennent à De Cazeville, organisent la grève, démontrent évidemment des mécanismes par des réunions, par des décisions, démontrent ce qu'il faut faire. Des assemblées d'ouvriers dans d'autres bassins industriels votent des aides, des reversions. Mais c'est la solidarité. On n'est pas dans l'idéologie, on est dans la solidarité tout à fait élémentaire. Même le Conseil de Paris vote une aide exceptionnelle en faveur des grévistes. L'affaire devient donc politique d'abord, mais elle va aussi devenir révolutionnaire dans la mesure où les idéologies révolutionnaires en 1886, notamment à Paris, commencent à avoir une réelle influence. Parmi les révolutionnaires qui vont manifestement et clairement apporter leur soutien aux grévistes, il y a Jules Guesde, avec son journal Le Cri du Peuple. Et Jules Guesde a évidemment dans ce journal des mots très durs contre ces capitalistes pour qui il n'a que mépris, il les traite d'affameurs notamment, et où, quand il parle de l'enfer de la mine. Mais il y a aussi Louise Michel, et la Vierge Rouge de Montmartre, l'ancienne passionnariat de la commune et qui était revenue depuis peu d'exil et qui va retrouver là des accents qu'elle connaît bien.
Le 7 février, dans un grand meeting de soutien donc aux mineurs de Decazeville, justement, Louise Michel proclame, je cite, « Nous étions endormis, le coup de canon de Decazeville nous a réveillés. La Marseillaise souffle dans l'air. Le peuple se prépare, une fois encore, à sauver le monde. Honneur aux mineurs de Decazeville. »
Et voilà, je crois, parfaitement résumé par Louise Michel, son état d'esprit et en même temps celui qui est en train de se généraliser, car ces soutiens-là, cette solidarité ouvrière qui est nouvelle hein, par son ampleur, ce débat politique au Parlement n'empêche quand même pas la répression, car le bassin est traité comme un pays rebelle. En même temps, la troupe, depuis janvier 86, occupe les lieux. Bon, le régiment, le 81 régiment de ligne de Rodez, mais on envoie aussi des troupes de Montpellier. On envoie même les dragons. Imaginez ces soldats avec casquets et à cheval que l'on envoie de Carcassonne pour réprimer les émeutes. Donc le pays est extrêmement tendu et il a fallu à la fois la formidable solidarité derrière les mineurs. Il a fallu aussi quelques promesses ou difficilement obtenues par des intermédiaires pour que le calme puisse revenir. Seulement ce calme, il est très précaire pour une raison simple, c'est que les promesses faites par la compagnie ne sont pas tenues. Si bien que la grève reprend de son ampleur et ça se termine pour deux raisons, en mi-juin, ce qui est énorme, ça fait presque 6 mois, 110 jours de grève effective, plus les troubles, c'est presque 6 mois, 5 mois et demi de désordre dans le bassin. Ça se termine parce que la compagnie craint que le procès des meneurs fixé le 15 juin ne relance les émeutes ou les troubles et préfère accorder une forte augmentation de salaire. C'est la première fois dans le bassin que l'on parle d'une augmentation de salaire vraiment conséquente. Ce qui fait que les gens reprennent le travail. Les meneurs seront condamnés à des peines très lourdes à Rodez, en assises, puisqu'il y a là, évidemment, il y a eu à traiter la mort de Vatrin. Et les quelques meneurs sont condamnés, l'un, aux travaux forcés, 8 ans de travaux forcés. C'est pas celui qui a tué Vatrin, car on ne sait pas quel est le coupable réel. Les autres étant condamnés à la réclusion criminelle pour de longues années, pour certains, beaucoup moins pour d'autres.
Alors, malgré cette répression très très forte, il y a eu d'autres grèves après, y compris dans notre sud Aveyron.
Oui. C'est là où cette histoire sociale et la focale que nous avions choisie sur le bassin mérite un prolongement. Parler de Germinal en Aveyron, ça n'est pas seulement, même si l'image est commode, hein, se focaliser sur le bassin minier et métallurgique, ou faire référence au Germinal de Zola, qui d'ailleurs s'est bien inspiré de ce qui s'était passé en 1869 à Aubin. En choisissant comme titre Germinal en Rouergue, nous avons voulu aussi rendre hommage à tous ceux qui ont lutté ailleurs, avant et surtout après. Car après 1886, même si la cicatrice ne va pas guérir si vite, il y a eu d'autres mouvements. Il y en a eu à Millau. Il y en a eu aussi dans le bassin. Il y aura de plus en plus de grèves, certes des hommes, des ouvriers au sens sexuel, mais il y aura aussi de plus en plus de mouvements où l'on repère les femmes. Et je crois que là, il y a un élément nouveau dans notre département. Et je voudrais, comme exemple, choisir celle de Roquefort, où, à partir de 1890 et jusqu'en 1910, à certains plusieurs moments, les femmes, les cabanières, vont faire grève, oser faire grève. Je dis bien des femmes, en tant que telles, en tant que salariées. Et puis, il y a aussi, pour le bassin, un autre aspect de ces grèves, c'est celle des enfants. Alors, ça, aujourd'hui, ça paraît incompréhensible. Grève des enfants, qu'est-ce que ça peut vouloir dire en 1900, 1908, 1912 ? Il y avait des enfants, au début du XXe siècle, en pleine belle époque, nous dit-on, qui travaillaient à des laminoirs, qui triaient du charbon, qui avaient moins de 12 ans. Puisque la scolarité obligatoire s'arrêtait à ce moment-là. Et ces enfants, ces garçons notamment, vont oser, parce qu'ils sont dans des conditions de travail difficiles, parce qu'ils sont peu payés, parce qu'ils réclament le droit à l'instruction, se mettre en 1900 en grève, en 1908 ils refont grève, et en 1912 ils refont grève. Et je crois qu'on a là l'exemple même, certes, de ce que nous appelions la révolution industrielle, que nous rappelions de progrès réel, mais en même temps d'exploitation. Et il faudra beaucoup de courage au gouvernement, parfois aux élus du peuple, pour arriver à faire avancer les lois sociales. Mais là, c'est toute autre histoire et beaucoup plus complexe.
On en reparlera peut-être lors d'une prochaine émission. En attendant, vous avez des ouvrages à conseiller à nos auditeurs?
Oui.
Sur cette question.
Deux ouvrages qui ont évidemment qui fournissent des éclairages régionaux. Celui de Roger Béteil, aux éditions Hachette, La vie quotidienne en Rouergue avant 1914, qui balaye tous les aspects agricoles, industriels, religieux. C'est un ouvrage de très grande qualité, d'écriture, mais en même temps facile à lire par son contenu. Et puis, plus spécifiquement sur le bassin minier, le livre Germinal en Rouergue, qui a servi de titre à notre émission, en sous-titre Les révoltes ouvrières dans le bassin Houillat Véronais, de Louis Cassiat, un ouvrage certes un petit peu ancien, mais qui garde toujours, qui avait été édité à compte d'auteur, donc peut-être difficile aujourd'hui à trouver, mais qui reste évidemment très bien documenté, et un livre évidemment que je recommande à ceux qui s'intéressent aux grandes questions sociales.
Eh bien merci Henri Moisé, et puis...
Au revoir.
À bientôt.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.